Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi mi senya, omani kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Cette voix et cette humeur musicale sont identifiables instantanément. Il faut dire que notre invité du jour est une reine de l'art vocal dont l'intégrité et le franc-parler la hissent au rang des grandes figures de notre temps. Au fil des décennies, elle a imposé un discours, une exigence et une tonalité qui nous inspire et nourrit notre réflexion. Nous sommes honorés d'accueillir aujourd'hui l'immense Oumou Sangaré, soyez la bienvenue.
Merci beaucoup.
Abidi.
Ça va. Et Kakenen ?
Et Doni.
Ah, alhamdoulilah.
Cela faisait 5 ans que nous attendions ce moment depuis l'album Mogoya. Et vous nous revenez donc en 2022 avec Timbuktu, un album enraciné dans la tradition, avec cette pointe de blues que l'on perçoit tout au long de ces 11 nouveaux titres. Mm-hmm. Est-ce que le fait d'avoir conçu ce répertoire aux États-Unis a donné une musicalité différente à votre voix, à votre expressivité ?
C'est possible, vous savez, la musique, elle prend la couleur de là où elle est. C'est possible, mais moi, je pense que je suis vraiment dans la pure tradition du Wassoulou. Ma musique, c'est une musique qui a beaucoup voyagé, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis sur la scène internationale. Obligatoirement, je vais prendre quelques influences, mais tout en restant moi-même dans le vrai Wassoulou, quoi, j'essaye.
Vous avez conçu cet album à Baltimore, le Maryland. Vous n'aviez pas prévu de rester très longtemps à Baltimore.
Non.
Et finalement, le confinement vous a permis de découvrir un lieu très agréable.
Tout à fait.
Pourquoi vous sentez-vous bien là-bas ?
Je ne sais pas. Après 3 mois à New York, je suis allée à Baltimore. On dirait vraiment soufflé. C'est incroyable. J'ai dit, mais j'adore ici. C'est ouvert. J'aime beaucoup les paysages. C'est calme. Et puis on me dit, c'est pas que ça, Oumou. Tu sais, Baltimore, c'est la ville de l'Amérique qui a accueilli les premiers Noirs qui ont mis leurs pieds sur terre. C'était à Baltimore. Ah, j'ai dit, mais peut-être il y a quelque chose ici qui m'a tout de suite attrapé. Et je dis oui. J'étais en train de chercher la maison un peu partout, pas loin de New York, mais pas vraiment à New York. Puisque j'ai fait 3 mois à New York, je voulais pas être trop loin de New York, mais je ne voulais pas vivre dans New York. Donc, arrivé à Baltimore, la ville m'a tout de suite attirée et je suis restée. Et voilà, tout est parti de là.
Et puis, vous n'étiez pas seule, vous étiez avec Mamadou Sidi Bé.
Tout à fait. Une fois installée tranquillement dans la maison, Oumou Sangaré ne peut pas rester tranquille sans rien faire pendant des mois. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais je suis là, je suis tranquille, je ne fais rien, je suis chez moi. J'ai pensé à Mamadou. Je prends le téléphone, je dis, Mamadou, est-ce que ça te dira de venir? J'ai commencé à avoir des idées. Est-ce que ça te dira de venir me rejoindre? Vous voulez que je vous envoie le billet? Il dit, quelle bonne nouvelle, ça fait plus de 3 mois où je n'ai pas touché Ngoni. Donc lui, il a sauté de joie. Je lui ai envoyé le billet, il est venu. Du coup, c'est le travail qui a commencé pendant 3 mois. Matin, midi, soir. Sauf si on a faim, on stoppe et puis on va cuisiner. Moi, je rentre dans la cuisine, je cuisine. Ou souvent, Mamadou rentre dans la cuisine et il cuisine. Et sinon, c'était le seul moment où si on a sommeil, on a travaillé matin, midi, soir, sans stress, pour réaliser cette belle aventure.
Est-ce que vous pensez vous installer définitivement aux États-Unis?
Ça va être dur. J'aime beaucoup, mais ça va être dur. Je suis bien au Mali parce que je pense que je suis plus utile au Mali qu'ailleurs. Mais j'aime bien, j'ai un pied-à-terre à Paris, j'ai un pied-à-terre aux États-Unis, j'ai un pied-à-terre à Abidjan. Mais j'aime bien rester au Mali parce que je pense que j'ai encore des choses à apporter à mon peuple, je pense.
Est-ce que la pandémie vous a changé? Est-ce que vous voyez les choses différemment aujourd'hui? Je vous pose cette question parce que nous, vous avions reçu il y a 5 ans ici même. Et beaucoup de choses ont eu lieu depuis 2017.
Tout à fait. La pandémie m'a permis de d'abord me reposer, poser mes 2 pieds sur terre. Parce que j'étais, depuis 30 ans, je suis tout le temps sur la route, en tournée ou dans les business. Je n'avais même pas le temps de bien réfléchir. Je suis tout le temps, et pourtant, je ne savais pas que j'avais besoin du repos même. Donc, j'étais tout le temps partie, tout le temps dans le business, tout le temps, sans stop. Pour moi, c'était devenu normal. C'est quand j'ai eu cette pause-là que je me suis dit, ah, Oumou, il y a quelque chose qui te manquait. La pandémie m'a permis de poser mes 2 pieds sur terre, de regarder derrière moi tout ce que j'ai fait et de penser, de me permettre à penser ce que je dois faire.
Êtes-vous plus engagé depuis la crise sanitaire? Est-ce que cet événement mondial a renforcé vos convictions? Êtes-vous devenu, je ne sais pas, plus philosophe, plus sage?
Sage, oui. Oui, puisque ça m'a permis de me retrouver, de réfléchir bien, ça m'a apporté beaucoup de bien. Ça m'a permis d'être plus sage, d'être plus attentive, d'être plus attachée encore à des valeurs.
Sur ce nouvel album Timbuktu, on perçoit plusieurs sentiments. Et comme nous vivons dans un monde beaucoup plus incertain qu'autrefois, j'aimerais savoir si vous vous êtes adouci. Je ressens plus d'émotions positives dans ce disque. Est-ce que je me trompe?
Non, pas du tout. Je pense que j'ai réussi à mettre beaucoup d'émotions positives dans cet album parce que, primo, j'étais loin de ma famille, de mon fils, de mes 3 princesses, mes petites filles, de mon pays qui brûlait à l'époque. Donc, j'avais besoin de sortir cette émotion-là. J'avais besoin de sortir cette émotion de solitude-là, cette émotion d'être loin de la famille. Oui, j'avais quelque chose en moi, il fallait que je sorte cette émotion-là. Et j'ai eu la chance de le sortir dans cet album.
Prenons Kanou ou Demissim, par exemple. Que racontez-vous dans Demissim?
Demissim, en Bambara, ça veut dire les enfants. Les enfants abandonnés, les enfants démunis qui se baladent auprès des mosquées, auprès des feux rouges, et qui quémandent, qui n'ont pas d'avenir. Donc, j'interpelle les dirigeants du monde entier de faire quelque chose. Il y a beaucoup de structures qui aident les enfants, mais ça existe encore, ce n'est pas assez. Donc j'interpelle cette fois-ci les dirigeants de créer des systèmes pour venir en aide à ces enfants-là, parce que si on ne les accompagne pas, c'est eux qui vont devenir des délinquants de demain, des bandits de demain. Donc cela n'arrange personne. ni la société, ni les parents. C'est des enfants, c'est des pauvres enfants qui n'ont pas demandé de venir, qui se sont vus dans un monde troublé et ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Donc tout ce qu'ils trouvent, c'est d'aller quémander, voler. Et dans la chanson d'émission, j'interpelle tous les dirigeants du monde de venir en aide à ces pauvres enfants qui n'ont pas demandé de venir.
C'est ce que j'appelle un engagement positif.
Merci.
Écoutons Dimissime, un blues profond et si inspirant. Dimissime, Oumou Sangaré en 2022 sur l'album Timbuktu. Nous ne sommes pas là pour parler politique, Oumou Sangaré, mais votre terre natale est en proie à des bouleversements majeurs.
Tout à fait.
Quel rôle doit jouer un artiste quand il perçoit des tensions sociales et culturelles? Doit-il s'exprimer ouvertement ou doit-il chercher l'apaisement?
Moi, je pense que notre rôle, c'est de chercher l'apaisement. C'est ça même l'artiste, quoi. L'apaisement. Il faut parler entre les gens, que la paix revienne dans le cœur de tout le monde. Parce que ça ne sert à rien, la guerre. J'ai vu des guerres qui ont persisté pendant 20 ans à la fin. Ils se sont s'asseoir autour d'une table encore pour parler. Il faut donner la chance à la parole tout de suite avant que ça soit trop tard. Parce que tôt ou tard, ça va finir par la parole. Au lieu de faire parler l'arme, faire perdre beaucoup de vies innocentes, vaut mieux mettre la parole en avance.
En priorité.
En priorité.
Est-ce que la musique a toujours un pouvoir diplomatique, comme dirait votre ami Herbie Hancock?
Ah si, oh là là. La musique a un pouvoir diplomatique. Sinon, la musique, je peux dire, a un pouvoir d'apaiser les cœurs plus que certains discours politiciens, plus que certains discours de politique. Les gens ont tendance de croire à des artistes que à certains politiciens qui disent pas que la vérité, quoi. Ils savent que les artistes cherchent aucun intérêt de mentir. Ils sont là pour vraiment apaiser les cœurs et parler des vérités, mais pas pour vraiment parler de bonnes paroles pour gagner de la place.
Et puis on rappelle, la musique est un langage universel que tout le monde peut comprendre.
Tout le monde peut comprendre.
Nous écoutions il y a quelques instants Dimissime. Je ne comprends pas ce que vous disiez dans ce titre. Ce n'est pas ma langue, mais je reçois quand même les émotions et j'ai tout de même la chair de poule.
Oh, wow.
La musique est universelle.
C'est une langue comprise, parlée, mais c'est une langue que tout le monde comprend. Parce que voilà, moi, je me rappelle aussi quand on était jeunes, je ne parlais pas un mot anglais. quand j'écoutais Bob Marley, des fois, je pleurais.
Sans savoir pourquoi.
Sans savoir pourquoi je pleure. L'émotion de la voix me touchait beaucoup.
Ouais. En 2010, vous aviez participé à l'album Imagine Project.
Tout à fait.
Qui reprenait le message de paix de John Lennon. Mm-hmm. Et Herbie Hancock, qui est donc l'auteur de cet album, vous avait demandé de chanter en bambara.
Oui.
Quel message, quel mot aviez-vous prononcé dans votre couplet? Est-ce que vous vous en souvenez?
Oui, je répétais les... Parce que quand il m'a parlé de ce que veut dire la chanson, donc j'ai essayé d'interpréter la même chose à peu près, mais en bambara. Et ça lui a plu. Il dit, mais toi, tu continues en bambara. J'aime beaucoup cette langue. Je ne sais pas si mes origines parlaient, mais cette langue me plaît beaucoup. Il m'a expliqué ce qui veut dire la chanson. Donc, on a essayé de parler un peu dans ce sens, un peu, pour que tout le monde puisse comprendre. Quand les Bambara ils vont entendre, quand les Africains ils vont entendre, vont comprendre à peu près ce que ça veut dire, cette chanson.
Je ne résiste pas au Moussangaré à l'envie d'écouter ce passage d'Imagine que vous interprétiez dignement.
Merci.
Je ne m'en lasse pas. Imagine de John Lennon par Oumou Sangaré sur l'album d'Herbie Hancock en 2010. Vous aviez d'ailleurs remporté un Grammy Award pour cette prestigieuse collaboration. L'année précédente, vous aviez été nominé au Grammy pour l'album Seiya. Est-ce que les récompenses honorifiques vous importent? Est-ce que ce n'est pas superficiel pour une femme engagée comme vous?
C'est pas superficiel, ça. Les récompenses, ça te donne l'énergie d'aller en avance. Hein, ça veut dire que tout ce que tu fais, tu penses que tu le fais pour toi, pour l'Afrique, et que le monde entier te suit. Donc, ça te donne l'énergie d'aller en avance.
Ouais. Est-ce que votre rôle d'ambassadrice de bonne volonté auprès de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, n'a pas plus de valeur à vos yeux que des trophées?
Ah oui, mais c'est pas pareil. C'est... Tous les deux ont des valeurs, mais... Mais l'organisation, oui, ça a plus de valeur parce que ça nous concerne beaucoup. Voilà, ça concerne l'Afrique, vous voyez, vu tout ce qui se passe autour de nous en Afrique, la famine, la pauvreté, la guerre. Franchement, c'est l'essentiel pour moi, ouais. Et je suis contente d'être l'ambassadrice de la FAO, de parler souvent pour la FAO, défendre un peu la cause de cette organisation noble.
J'allais justement vous demander, quand on est ambassadrice auprès de la FAO, quel est votre rôle précisément? Vous donnez des conférences? Vous interpellez des politiques?
Oui, on donne des conférences, on donne nos avis sur des choses, on parle, on sensibilise les gens. Parce que la FAO, avant que, par exemple, moi, je devienne ambassadrice, la FAO n'était pas beaucoup connue au Mali. Donc, on organise des petits trucs pour vraiment, par exemple, la première année, on nous a invités à Rome. Chacun a amené son projet. Nous, on avait créé un projet des animaux, tu vois, des bœufs, par exemple. Moi, je suis pull. On peut prendre 10 femelles et puis 5 mâles. On donne à une famille extrêmement pauvre pour 2 ans. Donc ces animaux-là, ils produisent. Après 2 ans, 3 ans, on vient, on récupère ça, on donne à une autre famille très pauvre. Et le moment où on vient récupérer ces animaux, souvent on part laisser une dizaine d'animaux pour des gens qui n'avaient pas une seule tête. Donc c'est ce genre d'organisation qu'on essaye de faire pour vraiment lutter contre l'extrême pauvreté dans nos pays. Je connais la pauvreté, voilà. L'extrême pauvreté, je connais. Pourquoi c'est difficile pour moi de voir des gens dans la pauvreté. Il y a eu des jours où on ne trouvait même pas à manger. Donc je connais quoi ? Je connais la pauvreté, je connais...
Vous savez de quoi vous parlez. Est-ce que la petite Oumou Sangaré, qui chantait à l'âge de 5 ans devant des milliers de personnes au stade Omnisport de Bamako, vous paraît loin de vous aujourd'hui ?
Pas trop loin, mais oui, après cette expérience, ma maman, elle ne voulait pas que je continue dans la musique. Elle voulait que j'aille étudier, que je sois peut-être ministre ou docteur ou avocate. Mais vu la situation de ma mère qui s'est dégradée, vous savez, en Afrique, il n'y a pas d'aide sociale. Elle s'est retrouvée toute seule avec 6 enfants où mon papa est parti avec d'autres femmes. Voilà. Donc, elle s'est battue beaucoup. Elle était toute seule. Il y avait des jours qui étaient très difficiles. Donc, j'étais obligée d'abandonner l'école pour sortir, aller dans un baptême ou dans un mariage, aller chanter, avoir de l'argent pour venir l'aider. Donc, je ne pouvais pas suivre les deux en même temps. J'ai pris goût parce que je ne voulais pas voir ma mère souffrir. Des fois, elle s'est retirée. Si elle n'a rien, elle se met dans la chambre, elle se met à pleurer. Quand je vois ça, non, je dépose mon sac écolier, je file en ville et je vais aller chanter. Et j'amène Dieu fasse que quand j'ouvre ma bouche et que j'écris, je dégage une énergie. L'argent tombait comme de pluie, des jetons, des billets, voilà. Je ramasse tout. J'amène ça chez ma mère. À la longue, j'ai quitté l'école. Elle n'était pas du tout contente. Elle dit, mais Oumou, je dis, mais je ne peux pas suivre les deux mamans. J'ai choisi la musique.
Quand on parle de sa jeunesse, en général, on en parle avec beaucoup de nostalgie. Est-ce que c'est votre cas ?
De nostalgie, oui et non. Vous savez, la souffrance, ou elle te rend forte, ou elle te détruit. Donc, ma souffrance m'a donné un caractère. Voilà, donc je peux faire face à beaucoup de choses. Je n'ai pas peur de la souffrance parce que j'en connais. Le luxe, depuis un certain temps, je connais. Donc, voilà, donc du coup, j'ai...
Vous avez un regard différent.
Un regard différent.
Est-ce que le fait de revendiquer votre statut d'ambassadrice du Wasulu est une manière d'imposer le respect, d'être considérée ?
Bon, ça, c'est les pensées des gens. Moi, je pense que je suis là pour vraiment magnifier ces Wasulu, faire connaître la culture encore plus. Avant moi, les gens sont passés, les gens étaient là. Mais essayer de m'amener ma pierre aussi, faire connaître plus cet extrême nord du Mali, très, très, très culturel, mettre la lumière là-dessus, ça... C'est une tâche que je me suis donnée, mais je ne me vois pas comme une ambassadrice. Il y a des ambassadrices qui sont passées comme Kouma Sidibé, comme plein de gens, mais je suis là à suivre un peu leurs traces. Voilà.
Revenons à Timbuktu, votre nouvel album. De quoi parlez-vous dans Kelemani ?
Je parle l'ignorance de la guerre. La guerre ne sert à rien. Quelle est ? Ça, c'est la guerre. Mani, vraiment pas bon. Ne sert à rien, ne résout rien. La guerre n'a jamais résolu un problème.
Une fois de plus, c'est l'activiste Oumou Sangaré qui s'exprime. Vous ne cesserez jamais de dénoncer finalement.
Ça va être dur. Tant que tout ce qui se passe autour de moi ne se passe pas correctement, et ça va être dur pour moi. Ou j'arrête de chanter ou je dénonce.
Les deux vont de pair.
Oui.
Je pense. Vous voyez comme une rebelle ?
Non. Je ne suis pas rebelle, je ne suis pas insoumise, c'est un peu trop. Je suis quelqu'une qui sait ce qu'elle veut, qui n'aime pas rentrer dans des choses un peu gauches. Je vais tout droit au but souvent Et les gens d'aujourd'hui n'aiment pas. On dit chez nous que Moro te tient, faut la faire. Les gens n'aiment pas ceux qui crachent les vérités, quoi. Donc, mais je ne suis pas rebelle. Je suis une femme normale, une vraie femme qui essaie de faire évoluer les choses, mais dans le respect. Je n'aime pas qu'on m'appelle une femme rebelle parce que j'ai fait mon mariage pendant 18 ans. J'obéissais à mon mari, je faisais tout. Je cuisinais pour lui, je faisais tout. Je ne suis pas une femme rebelle. Mais je suis une femme qui sait un peu ce qu'elle veut. Voilà.
Nous sommes en tout cas enchantés d'avoir une aussi talentueuse femme qui sait ce qu'elle veut aujourd'hui à notre micro.
Merci.
Kelemani, un nouvel extrait de Timbuktu, le dernier album en date de Oumou Sangaré. Votre voix est toujours aussi frissonnante, Oumou Sangaré. Je signale à nos auditeurs parisiens qu'ils auront le bonheur de vibrer à leur tour sur vos mélodies palpitantes le 15 mai à La Cigale. Un concert que je recommande chaudement. Et d'autres concerts en dehors des frontières françaises ?
Une trentaine de dates, oui, bien sûr. En Europe, oui.
Et sur le continent africain ?
Et sur le... Non, pas encore pas sur l'instant. Le continent africain, pas pour l'instant.
Et puis les États-Unis, j'imagine.
Les puisque... États-Unis, ça serait après aussi. D'accord. Mais ça, c'est juste pour l'Europe, une trentaine de dates.
C'est déjà beaucoup. En tout cas, nous serons là. Merci beaucoup, Oumou Sangaré.
Merci
Iniche.
À vous, Iniche, Inibaraji.
Mba.
Nse.
On s'est donné des cours hors antenne. Revenez plus souvent, Oumou Sangaré.
C'est promis.
L'émission du jour était réalisée par Jérémy Boucher avec le concours du Grand Oiseau, Olivier Roux. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.